Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche du métier.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise,
notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Vous savez pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutus pas grand,
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tomber en panne de poste. C'est tant que je
pas toucher. Sans quoi, tu dis, jamais, je tomber en panne.
Merde, mon arôme, merde.
Avec un rêve du poil, avec un rêve du poil.
Aujourd'hui, mercredi 2 mars, c'est la Saint-Rassemblement pour l'Ukraine. Saint-Rassemblement pour l'Ukraine est le saint patron des démocrates. Des démocrates français. Ouais, les meilleurs. Ceux qui veulent envoyer des armes pour la paix. Ceux qui ont le petit doigt sur la couture du pantalon dès lors que BHL apparaît. Le français de gauche, donc, se reconnaît facilement. Dès lors que le pouvoir, ses médias et ses intellectuels de cour lui disent qu'il faut faire la guerre, le cadre moyen, l'enseignant, l'artiste, l'écologiste, l'attaché à la laïcité, le porteur officiel des droits de l'homme, le nonce apostolique de la République, le fournisseur attitré de lumière pour éclairer les sauvages, le « je suis Charlie » en chef, sortent dans la rue, le plus loin possible des gilets jaunes, hein, brandissent des drapeaux tout neufs et soutiennent à distance les djihadistes qui vont libérer les Libyens ou les Syriens du nouvel Hitler. Mais attention, si toutefois les interventions militaires ne correspondent pas au credo de l'impérialisme franco-états-unien, si ce n'est pas chirurgicalement lié aux intérêts de nos capitalistes, alors il ne s'agit plus de se rassembler pour la guerre, mais pour la paix. Le français de gauche, alors, sort de nouveaux drapeaux. Le nouvel Hitler change de visage. L'Union européenne, qui est le parangon de la paix perpétuelle et de la démocratie, est appelée à la rescousse. Et donc, cette fois, c'est pas la guerre, c'est la paix qu'on demande. En insistant toutefois pour que des armes soient envoyées. Mais et des armes défensives, attention, c'est pas pareil. Dès lors, consultant d'un œil hâtif l'autre côté du périphérique, le démocrate français, effrayé par la masse islamo-gauchiste et par le populisme qui le cerne, s'en retourne dans ses pénates confortables pour se rassurer devant un écran où Enthoven, Glucksmann, Jadot, Barbier et PHL lui expliquent la différence entre un réfugié et un réfugié. Le réfugié ukrainien viendra dans une voiture comme la sienne. Il est instruit, il est démocrate, bref, il est blanc. Alors le français de gauche prépare la chambre d'amis, en versant une petite larme sur sa propre humanité. Ah ouais, on peut être d'une race supérieure sans être raciste, c'est ça qui est beau. Mais d'où vient que le français humaniste se sente obligé de trouver une solution à tous les problèmes du monde? Comment, par exemple, un socialo corrompu peut-il sérieusement prétendre vouloir en même temps armer les Ukrainiens, sanctionner la Russie, faire pression sur la Chine? Comment l'infiniment petit, l'infiniment vassal, l'infiniment vendu, l'infiniment fini, comment cette secte de vieillards sous-impérialistes peut-elle oser encore vouloir imposer ses vues grabataires à toute la planète? Mystère. C'est sous les traits d'un nouveau champion de la démocratie et de la paix que Saint Rassemblement pour l'Ukraine a été canonisé, Volodymyr Zelensky, un jeune homme charmant qui fait des super vidéos et qui résiste courageusement à l'invasion russe. Celui-ci figure en bonne place dans les cœurs et sur les photos de profil des humanistes français. C'est beau, c'est beau. C'est beau un oligarque. C'est beau un oligarque qui planque ses millions dans les paradis fiscaux et qui nomme des nazis dans son état-major. Bien sûr, le simple fait de rapporter des éléments contredisant la grossière propagande occidentale vous stigmatisera et ne vous apportera que des ennuis. Ah oui. L'hystérie est à son comble et toute tentative de raisonner fera de vous un poutinien. Alors prenez votre petit drapeau bleu et jaune, agitez-le dans le sens du vent et engagez-vous. Engagez-vous. Saint Rassemblement pour l'Ukraine vous attend avec un aller simple, Paris-Kiev. Aujourd'hui, mercredi 2 mars 2022, le soleil s'est levé avec ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il se couche et fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui ont jamais enlevé leur costume de colon. Eh, oh, eh. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche réduit de Radio Campus et sur campusville.com.
Au programme ce trimestre, l'âge nucléaire, quand vivaient nos ancêtres sur la planète Terre, avec leurs allumettes et leurs manteaux de fourrure, leur réseau internet et leur pot de confiture. Sur un sol divisé en plusieurs parcelles, ces hommes-là descendaient de la tour de Babel. Bien qu'ils eurent le même ciel, c'était jamais d'accord pour élire sa sentinelle, son nom et son folklore.
Ils avaient encore du poil aux pattes quand ils ont tout fait sauter. Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?
Les riches traitent aux riches ce que les pauvres prenaient aux pauvres. Il y avait des hommes sandwich dans la gamelle des fauves. De l'eau il en pleuvait, mais pas pour tout le monde. Le climat se réchauffait, chacun voulait la bombe. Ils roulaient en bagnole et les bagnoles au super. Mais ça manquait de pétrole à part dans l'atmosphère. Au bord de la faillite, ils s'étripèrent entre eux. C'était sans doute la suite de la guerre du feu.
Ils avaient encore du poil aux pattes quand ils ont tout fait sauter. Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?
rasaient les forêts, ils plantaient des OGM. Leurs pétroliers se vidaient dans la gueule des baleines. Un géant au pied d'argile mettait les pieds dans le plat. Il y a des traces à Tchernobyl et à Fukushima. Vivant le prochain trimestre au programme l'âge de pierre, avec les peintures rupestres et les grands mammifères. Faudrait qu'on les chassait juste avec une lance. Que de l'eau il en pleuvait, on avait bien de la chance.
On avait encore du poil aux pattes quand on a tout fait sauter.
Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais? Ils avaient encore du poil aux pattes quand ils ont tout fait sauter. Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, comme tous les mercredis à 7h-ci ou à peu près. Dans fin d'émission, on retrouvera du son pris par notre camarade André, du son de salarié de chez Cargill à Aubourdin, accompagné de journalistes du journal La Brique. Juste avant ça, un entretien avec Olivier Mathéou de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Et avant ça, la chronique de notre camarade Saïd Bouamama, Le Monde vu d'en bas, dont le titre cette semaine est « L'ogre russe est-il fou ?»
Ah ben justement, j'ai bien envie de parler de ça, Ali, mais d'abord, expliquer quand même à nos auditeurs qu'on est en train de discuter par téléphone, toi et moi, chacun dans son bunker, hein, puisque...
Voilà, on est bien planqué dans nos abris anti-atomiques.
Voilà, la situation est compliquée. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale, l'antenne de Radio Campus a été brisée. D'ailleurs, on rappelle à l'ensemble de nos auditeurs qui peuvent nous aider à racheter une antenne, hein, on va dire les choses comme ça. Il faut aller sur le site campuslibre.com et vous pourrez... apporter votre contribution à cette antenne libre, mais brisée momentanément. Oui, Saïd va revenir sur la situation russo-ukrainienne, on va dire, et tu penses bien que j'ai pris quelques petites notes en me promenant sur les réseaux sociaux, en regardant la télévision, voilà, on est tous un petit peu dans cette ambiance, hein, où il faut remarquer quand même que la propagande... moi, je sais pas toi, Ali, mais à chaque fois, je suis surpris de voir à quel point la propagande, aussi grossière soit-elle, comment ça fonctionne quand même malgré tout chez les gens qui sont a priori équilibrés, qui perdent tous leurs moyens là, hein, qui rentrent dans une hystérie totale, Poutine le nouvel Hitler, ne me parle plus, je veux pas le savoir. On va essayer de mettre un petit peu de raison dans tout ça, si c'est possible.
Le pire, c'est qu'à chaque fois, en plus, on sait bien depuis les charniers de Timișoara, les couveuses en Irak. L'opération fer à cheval aussi en ex-Yougoslavie. C'est-à-dire, à chaque fois, on se dit, mais on se fera plus avoir. On se fera plus avoir. Voilà. On sait que les médias mentent, mais il y a une sorte d'hystérie en France où, en fait, dès qu'il s'agit de l'extérieur de la France, on dit que finalement, les médias, ils mentent pas quand il s'agit de parler du Venezuela, de Cuba, de l'Irak, là, maintenant, de la Russie et de l'Ukraine. Voilà. On les croit quand c'est à l'extérieur des frontières.
Alors tout de suite, Ali, il faut quand même qu'on précise, avant, parce que déjà on n'a plus d'antenne, hein, il faudrait pas non plus qu'on nous interdise complètement. Hein, nous ne sommes pas poutiniens. Hein,
ah non, jamais.
Nous ne sommes pas des admirateurs de Vladimir Poutine. Hein, donc Vladimir Poutine est le chef d'État, un chef d'État de droite autoritaire, qui favorise le capitalisme de sa propre bourgeoisie, hein. Mais ça suffit pas de le dire comme ça, hein. Mais bon, on n'est pas poutinien, hein. T'étais pas poutinien, Ali, tu me rassures, hein.
Non, nous, en tant que, voilà, toi, je sais, toi, t'es un sale rouge, donc tu peux pas être poutinien. Moi, j'ai jamais caché mon admiration pour le modem, hein, ex-UDF. moi, non, je peux pas être poutinien.
Bon, déjà, premier truc, hein, c'est que quand on voit les réactions d'un certain nombre de gens, encore une fois, sur les réseaux sociaux, etc., on a l'impression que le problème a commencé jeudi dernier, c'est-à-dire avec la reconnaissance par la Russie des deux républiques de Lugansk et de Donetsk, et puis cette invasion, enfin cette attaque de l'armée russe. Or, il faut quand même qu'on rappelle assez rapidement à ceux qui nous écoutent et qui l'auraient pas remarqué, c'est que ça n'a pas commencé jeudi dernier, ça a commencé en 2014, puisque en 2014 il y a un coup d'État en Ukraine, hein, le fameux Maïdan, qui un coup d'État qui va déboucher sur une politique extrêmement libérale, hein, une libéralisation totale de l'économie, donc avec tout ce qu'on peut imaginer derrière, hein, en termes de paupérisation de la population, etc., etc., et avec une corruption gigantesque, hein, puisque les dollars pleuvent sur l'Ukraine, hein, pour que les Américains soient assurés que leurs marionnettes restent bien en place, hein. Et ça s'est accompagné également par une guerre. Tout de suite, elle a commencé en 2014. Hein. Elle a commencé à l'est du pays, hein, et c'est le pouvoir central ukrainien qui a commencé, en s'appuyant sur des milices nazies. Et c'est le mot est bien choisi là.
Hein. Oui, bah oui, oui.
On nous dit Poutine égale Hitler, non. Là, les milices sont vraiment nazies. Hein. Ça a commencé par.
Ou alors. Ouais. Ou alors peut-être qu'en Ukraine, les croix gammées ont une autre signification.
Peut-être. Ouais. Ouais. C'est peut-être. C'est folklorique peut-être.
Je ne sais pas.
Ouais. En tout cas, il y avait une volonté d'épuration ethnique qui s'est quand même traduite par 2 millions de déplacés et par jusqu'à ce jour 14 000 morts, si mes chiffres sont exacts. On voit 10 000, 14 000, 15 000. Enfin bref. Il y a une volonté d'épuration ethnique
de casser du russe, politique russe sur
fond. Voilà. Alors il y a eu les accords de Minsk,
hein, avec aussi l'interdiction, hein, même je veux dire ça va aussi. Il y a l'interdiction aussi de la langue russe aussi.
Hein. Bien sûr, oui, oui, oui. Ah oui, c'était voilà. Du harcèlement. De toute façon, il y a eu les accords de Minsk. Et, alors, on nous en parle traditionnellement. Enfin là, en ce moment, on nous en parle. Mais les accords de Minsk, c'est l'État ukrainien qui ne les a jamais respectés. Ensuite, alors, est-ce que ça justifie? Évidemment que ça justifie pas la guerre menée par Poutine, mais on peut quand même essayer de comprendre. Enfin, je ne sais pas si on a encore le droit. Hein. On n'est pas poutinien, donc, mais on peut comprendre quand même. On n'est pas obligé de.
Les gars, comprendre, c'est déjà excusé. Ouais. Ça, c'est Manuel Valls qui l'a dit.
C'est vrai, ouais. Il est bien d'actualité, ce garçon. Le point de vue russe, quand même, c'est que quand même, ils ont vécu des trahisons successives depuis la chute de l'Union soviétique, hein, puisque on leur avait promis, c'est noir sur blanc, hein, qu'il n'y aurait jamais d'élargissement de l'OTAN à l'Est. Il a eu. Il y a eu l'affaire yougoslave.
Tous les pays qui faisaient partie, ouais, effectivement, du pacte de Varsovie sont maintenant dans l'OTAN.
Voilà, c'est ça, oui. Il y a eu l'affaire yougoslave, et puis plus récemment, il y a eu la Libye, où on les a roulés dans la farine, on leur a dit qu'il n'y aurait pas de bombardement, qu'il n'y aurait pas de combat, etc. Et ça a été le cas, quoi. Et bon, il faut avoir ça en tête. Pour la Russie, c'est vraiment une question de vie ou de mort, cette question de la progression de l'OTAN et à l'Est, hein, cet encerclement, parce qu'il suffit de regarder une carte, il y a un encerclement de la Russie par l'OTAN, et donc il faut bien parler des objectifs des États-Unis. Ils sont là, ils existent bien, et il s'agit en vérité d'essayer de maintenir leur leadership, les Américains. Hein. Et j'ai l'impression que moi, que l'Europe, elle sert un petit peu de cobaye dans cette affaire-là. Hein, mais bon, c'est autre chose. Alors, je sais pas si t'as entendu, si t'as vu aussi Ali, mais on le connaissait pas encore, mais là, c'est devenu une star. C'est le héros Zelensky, le président actuel de l'Ukraine. Tu l'as vu?
Oui, le comique là qui.
Ouais, l'ancien comique, l'ancien acteur. D'ailleurs, je me demande si. Enfin, là, c'est un coup de maître. Hein. Je crois que c'est le premier président Netflix de l'histoire. Hein.
Aux États-Unis, ils avaient eu un acteur aussi, hein, comme.
Oui,
comme
je sais. Mais là, c'est autre chose. Là, le gars, il tournait dans une série, tournait un personnage, lambda, un enseignant, qui devient président de la République en Ukraine. Ce qui s'est passé dans la fiction s'est passé dans la réalité. C'est-à-dire qu'il a profité du succès de la série pour dire, bah oui, je vais vraiment me présenter. Le jour même de l'élection, sur la chaîne de télé, ils ont passé les épisodes de la série, quoi. Ça veut dire que, à mon avis, je crois que ça s'est passé à Hollywood, hein, cette affaire-là. Ils ont dû se dire, les gens sont suffisamment cons pour tomber dans ce truc, quoi, pour tomber dans ce truc. Bon, alors il est pas arrivé que comme ça par hasard, hein, non plus. Hein. Alors c'est un héros, hein, je sais pas si t'as vu, il a tourné un petit clip et tout, là on dit que vraiment c'est un héros, il est courageux, etc. Enfin, je vois ça sur les réseaux sociaux. Il faut quand même dire en quelques mots, hein, que il a été financé et protégé par Kolomoïski, qui est l'un des oligarques les plus puissants d'Ukraine. C'est aussi quelqu'un qui finançait la brigade, le bataillon Azov, hein, l'un des groupes nazis qui se trouve là-bas. Et ce Zelensky, on retrouve son nom dans les Pandora Papers. En fait, il possède une fortune considérable, bon, qu'il a ramassée en profitant de son réseau, hein, et qu'il a caché dans les paradis fiscaux. Hein, alors, voilà, c'est un héros, si on veut.
Les Papers, dont on n'entend plus parler, hélas.
Voilà, voilà. Alors, on dit, bon, il est juif, donc il peut pas être avec les nazis. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les précédents présidents, bon, ils ont pas donné satisfaction au peuple ukrainien, faut reconnaître, hein, parce que c'est la corruption, c'est la misère pour le peuple, etc. Et donc, il leur fallait quelque chose de nouveau, de complètement nouveau, et c'est un petit peu le Macron de là-bas, quoi. Hein. Et on dit, et juif, donc, ça garantit que, bon... D'abord, sa judéité est assez lointaine, hein. Puis bon, Zemmour aussi est juif. Hein. Il continue aujourd'hui, Zelensky, à s'appuyer sur les milices nazies, y compris dans l'état-major militaire, il y a des nazis. Donc déjà, la légende de Zelensky, héros courageux, etc., il faut déjà la mettre faut déjà la combattre. Quoi, hein. Le plus marrant, quand même, Ali, c'est la France, c'est le français.
Parce que moi je pensais qu'il était allé négocier la paix Macron la semaine dernière avant les premières
il avait sauvé la paix.
Hein.
Je me demande s'il nous prend pour des cons ou si c'est les autres qui le prennent pour un con et que ça rejaillit sur nous, je sais pas.
À mon avis, par ricochet, on passe pour des cons.
Hein. C'est ça, ouais. Bon, il y a quand même une nouveauté, c'est que d'habitude, la gauche bobo, la gauche, les socialos, machin, etc., la social-démocratie, elle sort dans la rue pour demander la guerre. Hein. Mais tu sais, la guerre gentille, pour rétablir la démocratie, machin, etc., pour combattre le terrorisme. Et là, pour une fois, ils sont sortis pour la paix, quand même. C'est nouveau, mais c'est la même chose, quand même. Finalement, c'est quand même pour la paix, mais envoyer des armes, quoi. Hein,
envoyer des armes, voilà. C'est la paix en envoyant des armes. Voilà.
Parce que bon, Poutine, il fait peur quand même, hein, même physiquement, il fait peur. Hein, quand il a dit qu'il mettait en alerte son système de dissuasion, là, tu voyais bien, même sur les plateaux télé, il y avait une forme de... les mecs, ils étaient un petit peu sidérés, ce qui se comprend. Mais,
puis c'est pour ça qu'on est planqué aujourd'hui, hein, de toute façon. Hein.
C'est ça. Mais bon, non, mais c'est ça, et puis c'est la suite. C'est que dans la foulée, il y a une réaction de l'Union Européenne. Donc, alors, je sais pas si tu connais Ursula von der Leyen.
Oui. Ouais. Bah oui, ça te commissaire, c'est un peu de la Commission européenne.
Ouais, c'est la chef. Et puis il y a son adjoint, c'est Borrell, il s'appelle.
Joseph Borrell.
Ils ont pris la parole. Je me souviens pas avoir voté pour eux, moi, parce qu'on parle de démocratie.
Non.
Ah bon. Borrell l'a dit qu'il était fier que l'Union européenne allait pour la première fois fournir des armes pour entrer en guerre, quoi. Hein.
Je pensais que l'Union européenne c'était fait pour la paix, justement.
Écoute. Enfin, voilà.
Jean Monnet doit être dégoûté.
Ouais. Alors j'ai pris quelques petites notes. Jean Monnet, l'agent de la CIA. Hein. J'ai pris quelques petites notes sur. Bon, la propagande, ça rend malade. Hein. Tu sais qu'en Angleterre, il y a eu un concert de musique classique. L'orchestre a joué du Tchaïkovski. Ils ont été hués.
Ah bon? Ah, bah oui. Tchaïkovski, c'est vrai, c'est un sale russe. C'est un soutien de Poutine. On l'a vu.
État-major. Après, bon, moi, tous ces gens qui manifestent, enfin, qui font des rassemblements pour l'Ukraine, bon, ils ont le droit. Hein. Après, c'est l'émotion qui parle. Hein. Mais j'étais sur un réseau social bien connu, puis je vois une photographie d'un rassemblement donc, où quelqu'un était content d'y être allé, et puis une photographie. J'ai dû lui faire quand même trois remarques. Quoi. C'est que sur la photo, t'avais le drapeau ukrainien, qui sont déjà pas très jolis de mon point de vue, hein, mais t'avais aussi un drapeau rouge et noir, qui est le drapeau d'une milice nazie de là-bas du congrès nationaliste ukrainien, qui ils sont ouvertement nazis, hein, ils étaient là. Il y avait aussi une pancarte qui demandait impérativement l'intervention de l'OTAN, hein, et puis il y avait une mention sur Zelensky. Alors je me dis, c'est quand même pas très à gauche tout ça, hein, parce que... Et je me dis, tu vois, on parle beaucoup de la gauche en ce moment, et dans les sondages, quoi, on n'est pas... Mais je pense que la décrépitude de la social-démocratie, elle conduit à des situations... Il y a un côté un petit peu ridicule, parce que... Je me suis fait cette réflexion, Ali. Ça fait trois fois, j'ai trois exemples où la gauche s'est trouvée dans des manifestations sans être à sa place. Par exemple, tu sais, par exemple, Fabien Roussel, quand il s'est retrouvé à la manif des flics, là. C'est pour essayer de porter un autre message que celui d'Alliance, tu vois. Mais force est de constater que ce message-là, il passe pas dans les rangs de la police. Mais voilà, c'est l'idée d'y être, mais pour porter un message différent. Tu sais, c'est un petit peu le nini, tu vois. Oui, mais non, oui, ça. Et bon, quand t'es dans une manif de flics, bon, bah, t'es minoritaire dans ces cas-là. Mais il y a eu aussi l'exemple des manifs anti-vax, où il y avait des gens qui allaient en disant, oui, moi, nous, on est contre le pass, mais on est pour le vaccin, tu vois. Bon, on a bien vu que ça passait pas, le discours passait pas. Et y compris, là, ces rassemblements pour l'Ukraine, là, à Lille, par exemple, à Lille, il y a des gens, parce que des anti-vax, en l'occurrence, qui ont parlé du rôle de l'OTAN dans l'affaire ukrainienne, ils se sont fait jeter, ils se sont fait insulter. Hein, et il y a eu la même chose à Aix-en-Provence, je pense, où les communistes hein, étaient présents et où leur discours, on a refusé leur discours. Hein. Donc, à un moment, il faudra quand même se rendre compte que ce que Gramsci appelait l'hégémonie culturelle, l'aile droite, le fascisme est en train de la conquérir, cette hégémonie, et que il vaut mieux, peut-être, hein, c'est mon avis, construire une contre-hégémonie de manière claire plutôt que d'essayer de gratter là-bas.
Ouais, voilà, essayer d'avoir une voix complètement minoritaire et puis qui sera de toute façon noyée par par toute la masse.
Et voilà. Autre truc amusant, il y a eu des manifs en Israël contre l'occupation. Contre l'occupation de l'Ukraine. Hein.
Oui, non, mais les Israéliens sont jamais à une contradiction près.
Voilà. Bon, et alors après il y a les réfugiés. Je sais pas si t'as vu, mais
lesquels? Les Noirs ou les Ukrainiens?
Non, les Noirs. Même les Noirs qui sont en Ukraine, tu sais, ils passent pas la frontière de la Pologne.
Attention, hein. Il y a réfugiés, il faut pas comprendre.
T'as plein de gens en France, là, ils sont prêts à ouvrir leurs portes, hein. T'as l'impression que, ils vont avoir des millions peut-être d'Ukrainiens qui vont arriver en France. Il y en a qui trouvent que c'est bien parce qu'ils sont instruits, tout ça, blancs, de notre culture et tout, hein. Mais il y a des gens qui sont prêts à ouvrir leurs portes, hein. Oui, des Ukrainiennes, oui. Il y en a déjà quelques-unes, il paraît. Alors, là, moi, je veux pas attaquer, je veux pas tirer sur les ambulances, mais, quand j'entends, Roussel, par exemple, dire, Il a dit il faudrait réquisitionner les propriétés des oligarques russes pour loger les réfugiés ukrainiens. Je trouve ça un peu indécent, tu veux, parce que c'est pour faire un mot, parce qu'on sait très bien que ça va pas se faire, tu vois. Et je trouve que dans ce genre de situation, si tu veux, surtout quand t'es candidat à la présidentielle, t'essayes de me prendre un petit peu de hauteur, tu sors pas des trucs que tu sais que ça va pas se faire et qui vont juste satisfaire un petit peu. C'est un bon mot, quoi.
On prend les propos de l'autre, le philosophe à deux balles, là, comment il s'appelle, Raphaël Enthoven.
Ah, c'est lui qui a dit ça?
C'est lui qui a dit ça, mais lui, c'était pas pour reloger les réfugiés, lui, c'était pour, c'était juste pour qu'on confisque les avoirs.
D'accord.
Voilà. Mais c'est peut-être lui, comme ça, il aura peut-être, dans son pied à terre, du côté de la Côte d'Azur, il sera tranquille, il pourra changer de voisin, quoi. Il sera pas des Russes qui font du bruit, qui balancent des bouteilles de vodka vide dans son jardin. On a la preuve. L'urso russe, c'est un malade. C'est un grand malade.
Ouais. Bon, après, il y a Mélenchon, il s'est trompé, hein. Et il a reconnu dans son meeting à la Réunion, dimanche peut-être. Et il a reconnu qu'il s'était trompé puisqu'il avait dit d'ailleurs, moi je le pensais aussi, hein, que les Russes n'allaient pas mettre le pied en Ukraine, quoi. Hein, si tu regardes, il y a un moment dans ce meeting, il y a un court moment où il s'explique, où il explique pourquoi il s'est trompé. Et en fait, il explique que la plus haute autorité politique du ministère de la Défense, donc je pense qu'il parle de Le Drian, hein, c'est lui qui a dit devant des députés que il y avait aucune chance, que la France elle avait des moyens d'observation qui étaient les mêmes que les Américains, et donc il semble dire qu'on lui a menti au plus haut sommet de l'État. On nous ment du plus haut sommet de l'État. Il semble suggérer qu'il y aurait même au sommet de l'État de la haute trahison, en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait un jeu qui se jouerait entre les États-Unis et une cinquième colonne, on pourrait appeler ça, au sein même des élites européennes. Parce que l'Europe a rien à gagner, hein. Je veux dire, l'Allemagne a rien à gagner à couper le gazoduc avec la Russie, là. Et on nous prévient qu'on va pleurer du sang et des larmes, hein, que c'est des populations qu'on va en chier, quoi, que les prix vont encore augmenter. Et je pense qu'on est à un moment de la crise capitaliste qui fait qu'ils sont prêts à jeter les dés comme ça, hein, et à tout foutre en l'air. J'ai bien l'impression que à l'intérieur de nos pays, dans nos bourgeoisies complètement décrépites, j'ai bien l'impression qu'on joue volontiers ce jeu-là, dicté par les Américains. Plutôt Biden que les Russes et les Chinois. C'est un petit peu... Mais bon, c'est peut-être juste une intuition, ça. Par contre, il y a un truc qui n'est pas du tout intuitif, c'est que, je ne sais pas si tu as vu, Russia Today et Sputnik, donc deux médias, ont été, alors l'Union Européenne a décidé, ça y est, on les interdit.
Voilà.
Parce qu'il paraît qu'ils font de la propagande. Il paraît qu'ils font de la propagande.
Mais pas nous.
Mais non, pas BFM.
Non, ici, non, l'Europe, non, pas BFM, pas...
Non, c'est flippant parce que là, c'est
Fox News,
c'est Russia Today. Je rappelle quand même que c'est des journalistes qui travaillent dedans, des journalistes français, hein. Donc, au même titre que ceux de BFM, etc. Ils font de l'information. Moi, je regarde de temps à autre, surtout avant que ça crève. Il y a même des critiques envers. J'ai vu hier un analyste qui faisait des critiques très sévères de Poutine. Mais c'est sûr qu'on a un point de vue russe, d'accord, ou russophile, on va dire, d'accord. Nous, on a un point de vue franchouillard, donc c'est quand même bien de pouvoir comparer. Là, on ne pourra plus, parce qu'on interdit... Ouais,
franchouillard, atlantiste même, quelquefois.
Atlanto-franchouillard, ouais. Bon, Ali, tu sais que pendant ce temps-là, les Américains ont bombardé la Somalie, les Saouds ont bombardé le Yémen, et qu'Israël a bombardé Damas. Tout ça, ces derniers jours, en même temps que...
Il va falloir qu'on sorte quand même avec nos drapeaux autres qu'ukrainiens, alors ça va
être... Ouais, c'est ça, et il va falloir qu'on déclare la guerre, donc, aux États-Unis, et à Israël, et voilà, l'Arabie Saoudite. Ouais.
J'ai bien peur qu'on se retrouve un peu seul.
Ouais. Bah non, on va demander à Raphaël Enthoven, à BHL,
Ah bah oui, peut-être qu'ils seront pris aussi à dire, c'est bon, il faut envoyer des armes pour lutter contre l'occupant.
Ouais. Et Ali, je crois que c'est l'heure de le mettre, malgré tout.
C'est l'heure de le mettre, oui.
Malgré une antenne très réduite. Hein, et... Bon, mais c'est l'heure de le mettre. Et on rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent donc aller sur le site campuslibre.com. Normalement, ils y sont, puisqu'ils peuvent quasiment nous écouter que sur Internet. Et puis, de verser leur petit obol.
Ben voilà, pour soutenir. Soutenir Radio Campus.
Voilà.
Et si vous ne le faites pas, parlez-en autour de vous pour qu'ils soutiennent, pour que vos amis ou même les ennemis soutiennent Radio Campus. Voilà.
Bon, on retrouve donc Saïd Bomama tout de suite, et puis Mathéou, et puis après il sera question des Cargill.
Voilà.
Allez, à toutes.
Tigila, 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 tigila. T'as qu'à faire le nouveau Tchagari.
T'es où c'est Loubov Zakizor?
Niev Colomba Kachori.
Oche Davia Chessil Damor.
T'es fait le corps d'Adrotnik.
Oliev Dayen del Chobotnik.
T'es fait le corps d'Obrengev.
N'y a rien fait d'Aya Kadringa Sildavi. Sildavi.
Tcha, 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 tcha.
Sildavi, Sildavi.
Tcha, 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 tcha. Tira, 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 tira. Profetal of Gebaniche,
Fantair of Koyet Frele,
Dariet Kesute Yantan Kli,
Direct Ma Orgara Jodri,
Kustachi Onda Nichivo,
Nachi Onda Kavia Chiro,
Onda Privet Racho,
Sakaita Vora, Dacha Kosi Navi, Si Navi,
Chop, 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 Chop,
Si Navi, Si Navi.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu la couverture médiatique de la guerre en Ukraine, qui prend la forme d'une véritable propagande de guerre, comparable à celle que nous avons connue dans le passé, à propos de l'Irak ou de la Libye, par exemple. L'annonce par le président russe du déclenchement d'une opération militaire en Ukraine suscite dans l'ensemble des grands médias une couverture médiatique à sens unique. Cette dernière réduit une situation complexe impliquant de nombreux acteurs internationaux en une fable pour enfants que l'on peut résumer comme suit. Le méchant ogre russe veut s'emparer de la gentille Ukraine ou au mieux y installer un régime à sa dévotion. Toute fable comportant une morale, celle-ci peut se résumer comme suit. Il est urgent de stopper par tous les moyens possibles le pseudo-expansionnisme russe et pour ce faire, de renforcer les troupes de l'OTAN dans la région. Comme au Vietnam avant-hier ou en Irak hier, le scénario déroulé par Washington comprend trois scènes s'enchaînant pour produire une opinion publique précise, celle d'une opinion publique favorable à la guerre et au renforcement de l'OTAN. Les trois scènes du scénario sont la décontextualisation, la diabolisation de l'adversaire et l'organisation de provocations poussant à l'escalade militaire. La première scène consiste à décontextualiser la situation pour masquer certains enjeux essentiels. Nous avons déjà restitué dans notre chronique du 31 janvier 2022 certains éléments du contexte silencié par les déclarations publiques états-uniennes et relayé par la plupart des grands médias. Nous rappelions en particulier la remise en cause des droits des russophones d'Ukraine à partir de 2014. Complétons aujourd'hui cet aspect en rappelant la participation de forces politiques ouvertement fascistes au gouvernement de 2014 avec en particulier quatre ministres appartenant au parti Svoboda, un parti se revendiquant de Stepan Bandera, un leader fasciste ayant combattu aux côtés des forces hitlériennes lors de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'en 2014, ce parti s'appelait d'ailleurs Parti National Socialiste. Le premier ministre de l'époque est Arseniy Petrovitch Yatsenyuk, qui se fit remarquer en faisant le salut hitlérien et en déclarant le 7 janvier 2015 que c'est, je cite, « l'URSS qui a envahi l'Ukraine et l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale et qu'il ne faut pas permettre que cela se produise à nouveau ». Ces forces fascistes appellent depuis 2014 à une purification ethnique. Cette dimension du conflit, silencié par de nombreux médias, n'est pas qu'une affaire du passé. Le 4 mai dernier, un défilé regroupant des centaines de personnes célébrait le souvenir de la 14e division de la Waffen-SS constituée d'Ukrainiens. L'occultation de cette dimension du contexte empêche toute compréhension de l'émergence des républiques russophones de Donetsk et de Lugansk que la Russie vient de reconnaître officiellement. Un autre élément du contexte, passé sous silence, est la sous-estimation généralisée de l'encerclement de la Russie par les troupes de l'OTAN. Les données que nous présentons sur cet aspect dans notre chronique du 31 janvier peuvent être complétées comme suit. Quelles que soient les données prises en compte, le tableau reste le même. L'OTAN dispose officiellement de 3,2 millions de militaires en service actif contre 831 000 pour la Russie. Elle dispose de 7 065 têtes nucléaires contre 6 850, de 22 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins contre 13, de 9 857 chars d'assaut contre 2 950, de 5 917 avions de combat contre 1075, de 29 275 blindés contre 5 900, de 13 porte-avions contre un seul. Soulignons également la décision de l'OTAN en 2014 de consacrer 2% du produit intérieur brut de chaque État membre à la défense nationale, en sachant également que les États-Unis consacrent 3,14% de leur PIB à leurs forces militaires. Ces éléments du contexte ne peuvent pas être négligés pour comprendre la stratégie russe consistant à refuser à tout prix que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Toute l'histoire de la Russie, depuis 1812, indique que c'est à partir de l'Ukraine que se sont construites les guerres contre la Russie. Le chercheur en géopolitique George Friedman rappelle ainsi cette leçon d'histoire. Je cite « Le territoire de l'Ukraine sert de zone tampon à Moscou depuis l'invasion napoléonienne de 1812 ». Fin de citation. Les mêmes qui criaient en 1962, lors de la crise des missiles à Cuba, qu'il y avait danger immédiat pour la sécurité nationale états-unienne, refusent aujourd'hui de faire le constat que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est légitimement perçue en Russie comme une mise en danger grave de sa sécurité. Ceux qui ont poussé le gouvernement ukrainien dans cette direction connaissaient pertinemment la signification de cette orientation pour les Russes et son caractère inacceptable pour eux. Or, en 2008, l'OTAN décide d'ouvrir, je cite, « une perspective d'adhésion sans calendrier précis ». Il y a 10 jours encore, le porte-parole du président Volodymyr Zelensky déclarait, je cite, « les aspirations ukrainiennes à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne sont inscrites dans sa constitution et restent un objectif prioritaire. La négation de ces éléments du contexte permet d'introduire la seconde scène du scénario, celle de la diabolisation de l'adversaire. Poutine serait ainsi simplement un fou, comme l'étaient hier Saddam Hussein et Kadhafi. L'explication pseudo-psychologique vient ainsi remplacer la nécessaire analyse des intérêts et des enjeux. Pour ce faire, il faut bien entendu taire et ou déformer les positions de l'adversaire. On peut certes être en désaccord avec Poutine et condamner son intervention militaire en Ukraine, mais la règle minimum de déontologie politique et journalistique est de rappeler les positions de toutes les parties en conflit. Rappelons donc comment la Russie explique sa décision. Je cite « Je parle de l'élargissement de l'OTAN à l'Est et du rapprochement de son infrastructure militaire des frontières russes. Il est notoire qu'au cours des 30 dernières années, nous avons tenté avec insistance et patience de s'entendre avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes d'une sécurité égale et indivisible en Europe, alors que l'Alliance Atlantique continue de s'élargir sans cesse, en dépit de nos protestations et préoccupations. La machine de guerre avance, et je tiens à le répéter, se rapproche de nos frontières. » Fin de citation. L'intervention du président russe tire également le bilan de 30 années de guerre et de déstabilisation au niveau international, en abordant, je cite, « l'opération militaire contre Belgrade sans aucune sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, l'utilisation illégitime de la force contre la Libye et le fait d'avoir dénaturé toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne, les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire syrien sans l'accord du gouvernement syrien et sans sanction du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes en présence d'une analyse géopolitique globale que l'on peut certes ne pas partager, mais qu'il est malhonnête de réduire aux agissements d'un fou ou à la mégalomanie d'un homme. » La troisième et dernière scène du scénario états-unien est tout simplement l'organisation de provocations. Les événements des derniers jours dans le Donbass ont été réduits par de nombreux commentateurs à des affrontements entre forces dites pro-russes et nationalistes ukrainiens. Une telle réduction n'est possible qu'en occultant les cibles détruites et les conséquences pour les populations des républiques de Donetsk et de Lugansk. Concernant les cibles, ce sont les infrastructures électriques de Gorlovka, le gazoduc vers Lugansk et l'aéroport de Donetsk qui ont été visés. Concernant les conséquences, ce sont des milliers d'habitants de ces républiques qui ont fui vers la Russie voisine. Toutes ces informations silenciées construisent une fable manichéenne du méchant russe et du gentil ukrainien. C'est ainsi que se fabrique une opinion publique favorable à la guerre pour le plus grand profit du complexe militaro-industriel et des monopoles de l'armement. C'est aussi par cette stratégie de tension que les États-Unis tentent de faire taire les voix discordantes au sein de leurs alliés afin de les mettre dans une situation de sacrifier leurs propres intérêts au profit de leur stratégie globale du pivot asiatique visant à isoler le concurrent chinois et à briser pour le pire ou à freiner pour le mieux les convergences entre la Chine, la Russie et de nombreux pays sur le plan politique international.
vodka balalaïka, apparatchik perestroïka, gulag Molotov, kopek neva, glasnost Gorbatchev, bolchoi vodka.
Radio Campus.
Quoi, la CGT? Oui. Tu sais ce que c'est la CGT?
Non, qu'est-ce que c'est la CGT?
Qu'est-ce que c'est la CGT?
106,6.
Donc, bonjour Olivier Matteux. En cette période de nouvelle vague Covid, ne peut-on pas aussi parler de nouvelle vague des politiques libérales?
C'est une belle question. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et tous les camarades et les travailleurs qui vont nous suivre sur le Facebook de l'UDCGT 13. Pour en venir à ta question, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de nouvelle vague, mais plutôt de continuité. Ce qui peut changer, c'est le niveau d'intensité des attaques, mais pas ni l'objectif, ni la philosophie, ni la stratégie et du gouvernement et du patronat. Ce qui est mis en œuvre depuis le début de la pandémie s'inscrivait déjà au tout début, très clairement, dans le programme annoncé d'Emmanuel Macron et dans la satisfaction des desiderata du grand patronat. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que depuis le départ, ils ont engagé des sommes folles d'argent public et qu'avec presque maintenant 2 ans de recul, on se rend compte que la grande majorité des fonds mobilisés a profité aux plus riches, que ce soit au travers des entreprises du CAC 40 et des grands groupes, comme des grandes fortunes du pays. Ce qui, malheureusement, nous prouve une nouvelle fois que nous avons affaire à un président qui est en mission pour la finance internationale, puisque il n'y a pas aujourd'hui, en réalité, un seul euro d'argent public engagé qui n'aille pas en direction de poches ou de caisses privées. On voit le sort qui est fait à la fonction publique et au service public. On est en pleine bataille là, contre la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique, et notamment la question des 1617 heures, où là, très concrètement, on demande aux fonctionnaires chargés d'exécuter le service public, de rendre le service public, de travailler plus en étant moins payés et en travaillant dans des conditions encore dégradées. Certains auraient la facilité de dire ces fainéants de fonctionnaires, ils n'ont mérité que ça. Ce qui est particulièrement injuste, injuste pour les fonctionnaires qui sont au travail tous les jours et qui l'ont été pendant la période de pandémie, comme tous les salariés de première ligne, je pense à ceux des commerces et services, des transports, bien entendu des personnels hospitaliers, mais ce qui est aussi très injuste vis-à-vis des usagers. Puisqu'aujourd'hui, on fait porter toute la charge sur ceux qui produisent les richesses, en épargnant ceux qui les récoltent, je parle là des très riches, pour des services publics toujours plus dégradés. Donc on a un gouvernement qui est, dans sa logique, sur toujours plus de cadeaux faits au grand patronat. Et je dis bien au grand patronat. Je fais le distinguo avec les commerçants, les artisans, avec les auto-entrepreneurs, en gros avec tous ceux qui vivent de leur travail. Pour tout cela, les choses se sont compliquées. Pour les ultra-riches et les plus riches, les choses le vont mieux encore qu'avant la survenue de la Covid-19. Donc il va falloir qu'on nous explique que tout ça, c'est dans l'intérêt général. Et là où le gouvernement est, qu'on le veuille ou non, en difficulté, gouvernement et patronat, c'est que la conscience de cette injustice-là et de l'inefficacité de ces politiques-là, elle grandit dans les têtes des travailleurs et du monde du travail. Les retraités sont mobilisés, les fonctionnaires sont mobilisés, les salariés du privé, toute activité confondue, il y a des batailles partout dans le pays. On sent bien les tentatives de réponse au travers chaque énergie, de chaque inflation. Sauf que c'est des cadeaux qu'on autofinance, enfin qu'on s'autofinance. À chaque fois, c'est enfoncer des coins dans le salaire socialisé et qu'on le veuille ou non, c'est une manière de ne pas répondre à la question cruciale du moment, c'est l'augmentation des salaires, pensions et minima sociaux. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de vague nouvelle. C'est une adaptation de la stratégie du gouvernement et du patronat pour essayer de perdre le moins possible de la part des richesses immenses qu'ils accaparent et éviter l'explosion sociale dans le pays qui est en train de monter. On n'appuiera pas sur un bouton. On n'appuiera pas sur un bouton pour déclencher les choses. Mais si on travaille à la mise en convergence de tous les conflits sociaux en cours, de tous les mouvements revendicatifs qui, à leur manière, remettent en cause toutes les logiques appliquées par le patronat au gouvernement, et c'est le travail de la CGT d'œuvrer à ces convergences-là. Il ne faut pas simplement y appeler, il faut l'organiser. Et il faut l'organiser à partir de tout ce qui fait le commun de tous les travailleurs, qu'ils soient du privé, du public, actifs, retraités, privés d'emploi, ou y compris ceux qui demain devront vivre de leur travail, je parle des jeunes, des étudiants. La responsabilité de la CGT dans la période, c'est donner à voir que la nature des attaques est identique dans tous les secteurs. La réponse, elle doit être collective. Il ne s'agit pas de nier les réalités de chaque secteur. Ce que vit un fonctionnaire du privé, c'est pas forcément identique dans la façon de le mettre en œuvre, mais en tout cas, ça part des mêmes logiques. C'est à chaque fois faire reposer sur ceux qui font le travail, sur ceux qui créent les richesses, la part la plus dure, et s'assurer que ceux qui sont là-haut, bien à l'abri des aléas de la vie, ils soient de mieux en mieux. Ça, c'est la responsabilité de la CGT. Et cette convergence-là, on doit la construire, y compris à partir de ce qui est juste pour les travailleurs, mais y compris à partir des moyens qui existent là dans la période. Il n'y a jamais eu autant d'argent mis à disposition dans les caisses des grandes entreprises. Cet argent-là, il doit servir à la satisfaction des besoins des populations, à garantir l'indépendance industrielle du pays, et en gros à satisfaire l'intérêt général. À quel moment ça va être le tour des travailleurs et des populations? Quand ça ne va pas, on nous explique qu'il faut faire des sacrifices. Quand ça va, il faut malgré tout faire des sacrifices et faire remonter les dividendes dans les caisses des mêmes, en prévision du moment où ça n'ira pas. Sachant que les crises, pour la plupart, elles sont créées par le système lui-même. en étant en crise perpétuelle, il nous explique perpétuellement que ce n'est jamais le tour des travailleurs et des populations. Il y a une prise de conscience de ce jeu-là qui est mené depuis malheureusement des décennies et des décennies, mais qui à chaque fois nous fait beaucoup de mal. Les attaques contre la sécurité sociale, les attaques contre l'hôpital public, les attaques contre l'éducation nationale qui étaient massivement mobilisées. La solution le sera dans le tous ensemble. Mais il faut dire aussi que là, c'est le moment que les travailleurs, et je le redis, hein, quand j'entends travailleurs, c'est le monde du travail, privé d'emploi, retraité, actif, privé, public, jeune, étudiant, c'est le moment là qu'ils prennent leurs affaires en main, non pas qu'ils signent un chèque en blanc à la CGT pour traiter leurs affaires, mais qu'ils prennent leur destin en main, c'est-à-dire qu'ils donnent la puissance nécessaire au mouvement social pour imposer d'autres choix. Dans leur programme, je m'excuse d'être long hein, à partir de la question que tu as posée, mais non, on n'est pas sur une nouvelle vague. On est sur une adaptation du rythme, de l'intensité, mais c'est les mêmes objectifs qui sont poursuivis et ils ne s'arrêteront pas. Si on prend aujourd'hui le débat autour des élections présidentielles, sans mettre de côté les idées d'extrême droite qui sont prédominantes chez tous les candidats du camp réactionnaire, hein, on va le dire comme ça, qui défendent le système en place, le reste du discours, c'est à celui qui va supprimer le plus de fonctionnaires, qui va fermer le plus d'usines, qui va réduire le plus de coûts de fonctionnement, d'intérêt. Et peut-être qu'ils oublient, quand ils réfléchissent à tout ça, qu'on sait que quelques familles parmi les plus riches dans le pays se sont partagées 300 milliards d'euros. Que toutes les années depuis 2008, le CAC 40 pète des scores de versement de dividendes toujours au même. Peut-être qu'ils pensent qu'on se considère, nous, condamnés à devoir perdre la fonction publique, à devoir perdre ce qui a fait le secteur public. Hein, je pense à la SNCF, je pense à EDF, au nom des dogmes du capital, la rentabilité, la compétitivité, la concurrence. Mais c'est eux qui nous imposent ces contraintes-là. La réalité, c'est que si nous faisons le choix d'utiliser les richesses créées pour satisfaire l'intérêt général, il y a largement de quoi faire, bien rémunérer tout le monde, assurer une protection sociale au travers particulièrement de la sécurité sociale de très très haut niveau. Il y a la possibilité d'avoir des services publics de qualité. On n'a pas aujourd'hui à payer des choses qu'on ne payait pas hier parce que le capital a décidé que ça devait être mis dans le secteur marchand. Il y a de quoi assurer de bons salaires dans tous les secteurs, des bonnes conditions de travail. On pourrait y compris réfléchir à la réduction du temps de travail en 32 heures, qui allégerait la peine de ceux qui sont au travail, mais qui mettrait en situation de travail des millions de travailleurs. Et y compris, pour regarder un peu, que le progrès technologique profite aux salariés, et pas simplement aux actionnaires. Si dans la grande distribution des caisses automatiques, ça ne doit pas vouloir dire systématiquement suppression de postes de caissière. On peut alléger le temps de travail de tous ceux qui restent et faire en sorte que les richesses qui sont créées le permettent, encore une fois, d'augmenter les salaires. On n'est pas condamné à la régression. Le fait, par contre, de ne pas y aller tous ensemble ou de ne pas y aller du tout, oui, là, on se condamnerait. Et nous serions responsables de notre propre sort. Mais le choix que nous avons à faire, c'est d'y aller ensemble et d'imposer d'autres logiques.
Alors justement, comme tu le dis, les travailleurs sont en colère et se mettent en mouvement sur leur lieu de travail. Quel peut et doit être le rôle de la CGT ?
Je le redis, le rôle de la CGT, c'est de travailler à la mise en convergence de toutes les luttes. Cette mise en convergence-là, elle ne doit pas être faite sur des bases incantatoires. Elle doit partir de ce que nous appelons, nous, les cohérences revendicatives. En donnant à voir les intérêts communs qu'ont les travailleurs de quelque secteur qu'ils soient à y aller ensemble. On a fait la démonstration. Quand on casse une industrie sur un territoire, les conséquences le sont sur les salariés organiques, toute la chaîne de sous-traitance, l'ensemble des activités connexes, mais y compris ça va jusqu'au service public, aux petits commerçants. Quand il y a moins de salariés dans une ville et plus de gens sans rémunération ou au chômage, qu'on le veuille ou non, pour les commerçants du coin, ça ne va pas mieux. On a des exemples où on a fermé des classes d'école parce que des fermetures d'usines ou d'unités de production ont fait que les populations se sont déplacées et on a justifié donc de fermeture d'une classe de classe parce qu'il n'y avait plus les enfants. Donc à chaque fois qu'on casse un outil industriel, on fait reculer les services publics. Et dans le même temps, à chaque fois qu'on fait reculer le service public, on fait en sorte que les industriels qui ne sont pas complètement bêtes, qu'est-ce qu'ils regardent ? Niveau d'infrastructure, niveau de service public, avant de s'installer quelque part. Et donc on rentre dans un cercle catastrophique de régression. Et partant de là, il y a quoi qu'il arrive intérêt commun à tous les salariés de défendre et nos outils industriels et nos services publics. Et nous avons quelque chose en commun, qui est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une machine qui ne peut pas s'effondrer. À condition qu'on continue à l'alimenter à partir des richesses qui sont créées. Et de ce point de vue-là, il faudrait augmenter les salaires parce que ça augmentera les rentrées d'argent pour la sécu, mais il faut mettre le capital à contribution. Il faut que le patronat paye ce qu'on paye, au moins ce qu'on paye nous, quoi, sur la base du... C'est pas possible qu'il continue à s'en mettre plein les poches pendant qu'on continue à rembourser de moins en moins les médicaments, qu'on voit l'hôpital public se dégrader au point, et je le redis, il n'y a rien pour les personnels, parce que les conditions dans lesquelles on les met, c'est ignoble. Et pendant que cet argent-là que nous créons, par notre travail, finit dans les poches de quelques actionnaires, voire dans les paradis fiscaux. Parce que les mêmes candidats à la présidentielle qui se font concurrence pour savoir comment ils vont détruire d'emplois dans le privé, dans le public, ils oublient de dire que si on arrêtait l'évasion fiscale, on récupérait quasiment 100 milliards d'euros pour financer tout ce qu'il y a besoin pour l'intérêt général. Donc c'est sur ces bases-là que les convergences doivent se construire. Sur la solidarité que les travailleurs se doivent entre eux, sur la solidarité que les générations de travailleurs se doivent entre eux, mais elles doivent surtout se construire sur la base des intérêts communs des travailleurs, et on en a bien plus que ce qu'on peut penser.
Donc en fait, ce qui se dessine, c'est de fait un combat pour des projets de société qui sont diamétralement opposés. Que porte la CGT comme vision alternative au capitalisme et comment empêcher le fascisme et les idées d'extrême droite de prendre pied chez les travailleurs?
La CGT, elle a deux piliers. C'est la défense quotidienne des intérêts des travailleurs et la transformation de la société. On pourrait dire qu'il y a une delta tellement grande, mais sur quoi on doit s'appuyer pour participer à la transformation de la société? C'est par la contestation au quotidien, des mauvais coups qui sont portés aux travailleurs, en leur donnant à voir que c'est des mauvais coups, que c'est pas juste, mais surtout qu'on pourrait faire autrement. Et pour que cet autrement devienne possible, il faut qu'on lève du poids, du pouvoir, à ceux qui aujourd'hui imposent tous ces mauvais coups et la régression sociale. Bien entendu que c'est projet contre projet qu'on doit y aller. Le capitalisme, il s'effondrera pas tout seul. Le capitalisme, il est en capacité de se mettre en crise permanente pour se régénérer. Toujours sur le dos des travailleurs et des populations. Si effectivement on n'est pas à la fois efficace et utile au quotidien, ben on finit par servir à rien. Mais si on ne met pas en cause le système tel qu'il est, on est condamné à le vivre perpétuellement. Donc ces deux piliers-là sont absolument indissociables si on veut être la CGT. Et forcément, pour être crédible, il faut être un utile au quotidien, et deux porteurs de solutions sur le long terme qui, de manière très pragmatique, il ne s'agit pas là aussi d'appuyer sur un bouton pour expliquer qu'on passera du capitalisme à une société où les richesses le seront réparties de manière à ce que ce soit l'intérêt général qui prime, où ce sera l'être humain qui sera en permanence au cœur des préoccupations. Ça ne se fera pas comme ça. Le gâteau que défendent ces gens-là, il est bon, et ils ne se laisseront pas faire. Mais on ne peut pas renoncer à changer le système, tout simplement parce qu'on se condamnerait à vivre ad vitam aeternam les mêmes choses, les mêmes injustices. Et il n'y a aucune raison qu'on soit dans cet état d'esprit-là.
Et donc, alors comment empêcher vraiment le fascisme et les idées d'extrême droite, puisque comme tu l'as dit dans ton intervention tout à l'heure, on parle beaucoup de ça ces temps-ci, justement à prendre pied chez les travailleurs.
Et qu'est-ce qui permet, depuis là aussi des décennies, que les idées d'extrême droite les aient autant pénétré les esprits, y compris chez ceux qui ont le moins intérêt à ce que les idées d'extrême droite elles l'emportent. C'est le fait que le capital crée de l'injustice, de l'insécurité, la peur de l'autre et la division parmi ceux qui auraient intérêt à s'unir pour changer les choses. Donc c'est clairement à ce système qu'il faut s'en prendre. Il n'y a pas dans l'histoire d'exemple où un système capitaliste a été mis en danger dans un pays où, pour se sauver, il ne s'est pas tourné vers le fascisme et l'extrême droite. Il n'y en a pas. En permanence, pour se régénérer, s'ils n'arrivent pas à le faire par la crise, par les restrictions, c'est vers le fascisme qui se tourne. Donc il faut dire et redire aux travailleurs que l'allié objectif du capitaliste, c'est le fasciste. Il faut le dire et le redire, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Demain, le patronat, comme il a fait, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, pas tous, mais l'essentiel du grand patronat, avait fait allégeance aux nazis. Mais demain, ils feront la même chose. Donc, à partir du moment où on fait la démonstration très claire, que ce soit Marine Le Pen, Zemmour, ou ceux chez les Républicains qui se sentent autorisés à porter... D'ailleurs, on pourrait dire la même chose du camp macroniste, hein, avec les lois asile et toutes les lois liberticides, ça commence à ressembler à quelque chose qui est... En tout cas, qui permet que les idées d'extrême droite le soient banalisées. En réalité, toutes les solutions le sont parmi le camp des travailleurs. La solidarité, la fraternité, porter ensemble nos intérêts communs, les valeurs du monde du travail. Il n'y a pas le racisme dans les valeurs du monde du travail. Quand on est sur un chantier, qu'on travaille ensemble, qu'on construit ensemble, qu'on bâtit ensemble, on est fiers de le faire ensemble. Et pour ça, il faut créer les conditions pour qu'ils ne puissent pas s'appuyer sur la menace du chômage, sur la concurrence qu'ils imposent entre les travailleurs en allant chercher toujours le moins-disant, les contrats détachés, le travail au noir. Et il y a un aspect sur lequel il faut être très clair aussi. Personne ne quitte son pays par plaisir. Et la plupart de ceux qui sont obligés de le faire, ils fuient souvent des bombes, et ils fuient très souvent des bombes françaises. Les mêmes qui fustigent l'étranger en permanence et qui lui mettent sur le dos tous les maux de la société française, je ne suis pas certain qu'une fois au pouvoir, ils prendraient la décision d'arrêter les ventes d'armes, d'arrêter de bombarder les pays, pour faire en sorte que des populations entières ne soient pas obligées de quitter leur pays. Et ça, ils vivent très bien cela avec ces contradictions. Parce qu'ils sont en réalité dans le camp de ceux qui captent les richesses et qui sont prêts à tuer des vies pour garantir le plus haut taux de profit possible dans leur entreprise, enfin dans leur groupe. Mais il faut le dire tout ça. L'extrême droite, quelle que soit la version ou le visage, blanc, brun, c'est l'allié objectif du capitalisme. Et on doit les combattre au même niveau que ce qu'on doit combattre, ce qui impose toutes ces souffrances.
Les collègues te l'ont dit tout à l'heure, ça fait plusieurs mois déjà que les Français grondent et grognent. Ils en ont marre qu'on essaie de les dresser les uns contre les autres à tout propos. Alors en ce moment c'est l'été, il fait beau de partout, on a de la chance. On va faire de la musique, on va écouter de la musique, mais il faut se rappeler qu'à la rentrée, tous ensemble, hey, hey. Mais pour l'instant, il s'agit avec le bassin sans système de lâcher prise, le garçon. Pablo.
La tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi. Il faut lâcher prise, décontacte-toi. La tête te fait mal et que ça tient autour de toi. Il faut lâcher prise, allez calme-toi. La tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi. Il faut lâcher prise, décontacte-toi. La tête te fait mal et que ça tient autour de toi. Il faut lâcher prise, allez calme-toi. Lâcher prise, ça ne veut pas dire relâcher son attention. Lâcher prise, en d'autres termes, c'est refuser la pression. L'histoire d'une fille, l'histoire d'un garçon. Ça commandait l'obligation d'interdiction.
Les certificats, les brevets, tous les diplômes à mention. Un seul ne suffisent pas à former les générations. Être à l'affût des sensations, être à l'affût des vibrations. Le savoir qui mène au pouvoir entre les deux, il y a l'action.
La tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi. Il faut lâcher prise, décontracte-toi, oui. La tête te fait mal, que ça craint.
lâcher prise.
Combien c'est la loi du vice.
Il faut lâcher prise les infos et les analyses.
Il faut lâcher prise la peur qui nous paralyse.
Il faut lâcher prise tous les discours qui nous méprisent.
Il faut lâcher prise
les dépenses qui interdisent.
Il faut lâcher prise
les gouvernants qui nous méprisent.
Ce qu'on appelle le système ou encore la société est un drôle de phénomène qu'il faut interpréter. Il faut y prendre de la peine en saisir la complexité. C'est tout pas rester à la traîne sinon tu te fais éjecter.
L'ignorance est un grand danger, c'est comme aller les yeux fermés. Et dans la danse le papier est là pour te le rappeler. Au quotidien tu dois trouver l'information et discerner où est le mal, où est le bien, ce qui est faux, ce qui est vrai.
Que tu sens un malaise en toi.
Il faut lâcher prise des contraintes de toi.
La tête te fait mal et que ça gagne autour de toi.
Il faut lâcher prise.
Allez, calme-toi.
Les affaires de tout scandalise.
Il faut lâcher prise. La malle gâteau sous la cerise.
Il faut lâcher prise. Les financiers qui vampirisent.
Il faut lâcher prise.
Sa cause qui verbalise.
Il faut lâcher prise.
Ce fada qui balkanise.
Il faut lâcher prise.
Le problème qui spécialise.
Il faut lâcher prise.
La violence et la bêtise.
Il faut lâcher prise avant que l'on soit dans la mouise.
Tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi.
Il faut lâcher prise,
des contacts de toi, oui.
Tête te fait mal et que ça craint
autour de toi.
Il faut lâcher prise,
allez calme-toi.
Tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi.
Il faut lâcher prise,
des contacts de toi, oui.
Tête te fait mal et que ça craint
autour de toi.
Il faut lâcher prise.
Radio Campus.
Alors, on passe au rouge ?
Je suis passé à l'orange, monsieur l'agent.
Alors, donnez-lui vos papiers, vous êtes passé au rouge.
On passe au rouge, chaque lundi, de 19h à 20h, sur Radio Campus, en 6,6.
Je vais commencer par accueillir tout de suite les salariés de Cargill. Peut-être, Louis, tu peux introduire en quelques mots. Et ben voilà, je laisse la place à Louis et aux salariés de Cargill.
Donc, les salariés de Cargill qui sont du coup en lutte depuis 2 ans maintenant dans l'usine Cargill d'Aubourdin. Donc c'est une grosse amidonnerie, vous voyez certainement, si vous êtes passé à Aubourdin, vous l'avez certainement marqué visuellement ou à l'odeur. C'est une usine qui est très vieille, elle date de 1946, voilà. Donc c'est une vieille industrie du Nord, mais qui a été rachetée par l'entreprise Cargill en 2002, si je ne me trompe pas. Du coup, Cargill, c'est le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire. Donc, c'est. Si vous. Enfin, pour se faire une image de ce que peut être le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire, vous prenez le chiffre d'affaires de Coca-Cola, de McDonald's, vous l'additionnez, vous le multipliez par 2, et ça donne Cargill. Donc, c'est à peu près, en 2021, c'est 125 milliards de chiffre d'affaires. Pendant la crise, depuis le début de la crise sanitaire entre avril 2020 et mars 2021 qui arrivent. Ils ont fait un truc comme 1,4 milliard de bénéfices, rien que de bénéfices. Bénéfices qui va certainement pas dans la poche des petits ouvriers qui sont à la base, et dont nous avons là deux représentants. Le syndicat CGT Cargill, c'est un syndicat qui se mobilise depuis plusieurs années, mais là particulièrement parce qu'il y a eu un gros plan social, ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, avec cette formulation très ironique. Ils font croire qu'ils vont sauvegarder l'emploi alors qu'en réalité ils font des licenciements. À la base, ils prévoyaient de licencier 183, même 186, je crois, personnes sur 330 employés dans cette usine. Donc c'est quand même une grosse usine. Au final, il n'y en a que 128 qui ont été validés par la directe, donc la direction régionale de l'emploi, etc. Il y en a déjà quoi, une centaine qui a été prononcée là.
Il y a déjà une centaine de prononcés. Certains sont comptabilisés, dont les 128, c'est pour les départs en fait, malheureusement. Et on peut dire, donc Cargill, je précise que c'est la plus grosse entreprise privée au monde. Ouais, donc ils font énormément de bénéfices. Et donc, nous on était des victimes dans tout ça. Donc malheureusement, un plan de sauvegarde de l'emploi, donc, c'est très violent, c'est très dur. Et quand on voit toutes les boîtes qui ferment dans le coin et tous ceux qu'on n'entend pas parler, malheureusement, qui s'éteignent, on va dire, dans l'anonymat. Après, il y a aussi les petites boîtes qui ont un ou deux salariés qui sont licenciés. Hein. C'est une hécatombe en ce moment. Vous voyez tous autour de nous. Hein. Et donc, notre lutte, elle est importante parce qu'il faut montrer l'exemple. Il faut se battre pour l'emploi, il faut se battre pour le monde de demain, c'est pour les prochaines générations, même pour nous, parce que notre retraite, personnellement j'ai encore 20 ans à faire. Et donc la lutte est importante, c'est violent, il faut se battre, ça, et, voilà, c'est, je sais pas quoi dire d'autre.
Alors en fait, le PSE, il nous est tombé sur la tête comme ça, du jour au lendemain, il déboule, il vous annonce la fermeture de la moitié de l'usine. Alors il faut savoir que voilà, on est un grand groupe, on était à peu près 350 à l'annonce du PSE.
325.
Et bonne ambiance, bonne boîte, un super boulot, tout ça, avec les copains, qui dégagent aussi pas mal de production, de bénéfices pour eux. Et en fait, quand on regarde bien, le fond du problème est toujours le même, c'est qu'on est au sein de l'Europe. Donc on dit que l'Europe c'est pour nous tous, on l'a voté pour ou contre, peu importe, mais évidemment c'était soi-disant pour l'Europe, pour la France. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui le groupe est en train de créer ce qu'on appelle une coquille vide. C'est-à-dire que dans l'État, il ne pouvait pas fermer le site. Sous prétexte qu'en France, on est obligé d'avoir des représentants. Et ça, ça ne les intéresse pas parce que ça fait un concurrent de plus sur le marché. Donc le but, c'est de fermer la moitié de l'usine, créer une coquille vide, dans le principe que quand ils vont refermer le site d'ici 2-3 ans, le site ne sera plus viable pour un éventuel concurrent pour acheter le site. Et là, concrètement, on ferme le site et il n'y a du coup pas de repreneur. Le fond du problème, il est où? C'est qu'en fait, on est dans un groupe où il y a 17 sociétés dans l'Europe, dont une ici en France à Bourgain. On est plus que rentable, il y a rien à dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent avec les 35 euros ou pas, on est plus que rentable. Ça n'empêche qu'aujourd'hui l'Europe donne des subventions au groupe Cargill et à des grosses sociétés en Europe pour aller ouvrir des usines dans les pays de l'Est. Donc si vous comprenez bien, c'est l'argent de l'Europe, donc c'est-à-dire notre fric, qui fait fermer le site à Aubournin pour aller faire dans les pays de l'Est. C'est quand même incroyable, mais c'est comme ça. Donc en fait, au final, on se retrouve que voilà, aujourd'hui, on est sans boulot. Le boulot il va être délocalisé. Ça a été le cas pour une partie des bureaux en 2016. Ils ont fermé aussi les bureaux, tout ce qui est comptabilité, logistique, service paye, service support, qui ont été délocalisés en Bulgarie. Donc exploitation aussi en Bulgarie pour le travail, donc 5 fois moins cher, mais ils sont dans l'Europe. Donc ça, il faut savoir. Donc ils ont licencié des gens. Donc on est dans un processus de destruction, hein. Donc ça a été fait petit à petit. Il y a quelques années, c'était le labo chimie, hein, donc il y a une dizaine d'années, les bureaux en 2016. Là c'est la moitié de l'usine en 2019. Donc on s'attend là du coup à une fermeture du site. Nous on est persuadés d'ici quelques années. Mais en fait, il faut aller plus loin que ça, c'est que nous, la lutte qu'on a eue là depuis 2 ans, moi pour ma part, ça fait 30 ans que je travaillais là. Sans regret. Moi, depuis 30 ans que j'ai travaillé là, j'ai toujours lutté auprès des autres sociétés qui étaient aux alentours d'Aubourdin et des copains. Et sans savoir qu'un jour, voilà, on aurait eu des coups de main des autres copains pour notre lutte, parce qu'en fait, on se rend compte qu'à Aubourdin, il faut savoir qu'on était l'une des communes du Nord-Pas-de-Calais à avoir le plus de sociétés. On avait Villeroy et Bosch, Siemens et Nixdorf.
C'était la plus industrialisée dans les années 60.
Et en fait, on se rend compte que bah, au final, c'était toutes des boîtes qui étaient hyper rentables. Le Siemens et Nixdorf étaient fermés il y a quelques 10-15 ans. Le verre en 2002, donc le verre, c'est une île verte, c'est des produits phares au Mosquito et tout ça. On a lutté avec eux. Ça n'empêche que l'année où ils ont fait le plus de bénéfices, ils ont fermé. Donc à bout d'un moment, on se dit, bah, comment on peut faire, nous, pour essayer d'enrayer leur système capitaliste, de vouloir toujours aller faire plus de fric. Parce qu'en final, c'est même pas une question de 35 heures ou, voilà, ou qu'on est trop payé ou pas, c'est que dans tous les cas, même si demain ils feraient le boulot par des Polonais ou par des pays de l'Est ou quoi, qui sont soit moins chers que nous, ils seront à peu près 5 fois moins chers que nous. Bon, là, ça monte. Mais si demain, il y a des Martiens qui débouleraient, je pense, sur la Terre, ils arriveraient à les faire travailler à notre place. Donc, en fait, c'est pas le point. Donc, si demain, ils pourraient faire travailler donc, des Martiens ou sur notre planète moins chère... Non, mais c'est ça, le système. C'est qu'en fait, ça finit. Et en fait, on se dit... qui peut stopper tout ça, quoi. Donc là, il y a les élections qui arrivent. Il faut bien voter. Il faut mobiliser, voilà. Donc... en fait, bon, au final, on arrive au fin du PSE, hein, pour ma part. Là, donc moi, je suis dégagé d'ici un mois, là, donc j'arrive à la fin de mon projet de reclassement. Donc 2 ans de lutte, hein, ça n'a pas été facile, mais on s'est bien organisé, hein, Dodo. Hein, on le fait pour nous, pour les copains, pour nos convictions, et surtout. Hein. Et puis voilà, donc au final, bon, on est dehors, et puis... Et puis le goût est un petit peu amer, et puis en tout cas, donc on remercie le camarade qui nous a suivis, il était là dans les luttes, dans les manifs.
J'ai peut-être une petite question, histoire de rebondir un peu. Mais c'est que du coup, là, il y a un article qui est sorti dans ce numéro-là de la Brique, où du coup, on parle un peu de tout ce dont vous venez de parler, donc la délocalisation, le rapport à l'Europe, l'espèce de saucissonnage de l'entreprise, où en fait, on va mettre... Toi, tu m'avais super bien raconté, Dorian, comment il faisait... des fiches de paye en Bulgarie, mais aussi en Bretagne, elles étaient imprimées en Pologne et elles finissaient par arriver. Voilà, tu veux expliquer. Vas-y, je t'en prie.
Donc nos fiches de paye, donc au début on avait un service paye à Bourdin, dans l'usine de Bourdin, qui faisait les payes de tous les carrefours en France. Donc au final ils ont délocalisé une partie en Bulgarie, une partie qui était donc c'est tout ce qui est gestion du temps, tout ce qui est. Rapport aux conventions collectives, c'était en Bretagne. Nos fiches de paye sont imprimées en Pologne et sont envoyées chez nous par courrier. Alors qu'avant, c'était dans le bâtiment, juste à côté de chez nous. Voilà un peu le monde de capitalisme dans lequel on est. Et maintenant qu'on a un problème, avant on allait frapper à la porte du service paye, voilà, j'ai un souci avec ma paye, c'était réglé en 2 minutes. Maintenant on appelle ça une forme de ticket, hein, pour faire des... par l'intranet, tout ça. Ça fait un mois avant d'avoir des réponses, quand on a une réponse. Voilà dans le monde dans lequel on est, malheureusement, et souvent on a tellement de problèmes. Le temps qu'on a une réponse, on a déjà 2-3 soucis qui sont arrivés, et souvent on en abandonne la moitié, on en a marre, on dit allez, c'est bon, tant pis pour ça. Là où est-ce qu'on en est?
Je trouve ça d'autant plus intéressant ce que vous dites que là, en ce moment, on reçoit, Lille reçoit les ministres de l'Intérieur et de la Justice européens. C'est pour ça que pour ceux qui se sont baladés un peu dans le centre-ville, en ce moment, c'est une espèce de. À Lille, là, près de la gare, je ne sais pas si vous y êtes allé, les gars, mais c'est une forteresse en fait. Hier soir, ils ont bloqué la place de la République à un point. Je dirais bien une seconde, mais je trouve ça d'autant plus intéressant ce que vous dites que, en fait, on a la présidence, en ce moment, la France est présidente de l'Union européenne. Et en fait, on voit, notamment ce que vous avez vécu, en fait, l'Europe que eux, ils défendent, c'est-à-dire les gouvernants, les États européens, en fait, c'est une Europe de l'économie, c'est une Europe du capitalisme, c'est une Europe des frontières ultra perméables, etc. Donc c'est pour ça que je rejoins complètement ce que vous dites quand on dit qu'il faut lutter contre ce système d'une manière ou d'une autre.
Et je voulais aussi juste donc rajouter un petit mot. Parce qu'il faut bien comprendre, dans les grosses boîtes, hein, et dans les grosses boîtes, ils sont assez solides, assez friqués pour s'organiser, pour pi- payer le fric du travail qui est effectué donc localement, il faut bien comprendre que concrètement, on nous a expliqué que la Bulgarie, entre autres pour le service paye et les services logistiques, ils étaient payés 5 fois moins cher que la France. D'accord sur le principe. Ça n'empêche que, en fait, le service paye et le service de logistique au Bordin, ils avaient un coût. Le boulot était bien fait. Ça a été délocalisé en Bulgarie. Donc, dans la théorie, le coût est 5 fois moins cher. Il faut savoir que dans les comptes CSE, quand on a demandé ce que coûtait la gestion de la paye de Bourdin, parce que la Bulgarie refacture la gestion à toutes les entreprises dans l'Europe, dont au Bourdin, et au coût annuel de la gestion de la Bulgarie, il faut savoir que le coût des Bulgares a été facturé 2 fois le coût qui a été estimé par Bourdin. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on paye 2 fois ce qu'on avait en prestation localement par les travailleurs français en France, alors qu'eux ils sont 5 fois moins chers. Donc vous avez tous les éléments pour bien comprendre qu'au niveau de Cargill, au niveau des bénéfices, ils sont un delta, ça leur coûte 5 fois moins cher et ils nous facturent à nous 2 fois plus cher donc la facturation de Bourdin. Ils s'en mettent plein les poches. En fait, il faut savoir que ce système-là, c'est pour piller les bénéfices des sociétés. C'est-à-dire, ils s'amusent dans tous les secteurs à piller par tous les moyens ce système-là pour délocaliser des frais. Donc, ils créent des frais supplémentaires, que ce soit dans les locations des PC, locations des logiciels. À partir du moment où vous touchez sur un PC, vous payez, vous, en tant que salarié, c'est pas vous, mais c'est le service qui paye une location à la direction de Cargill Europe. Vous payez à chaque fois le logiciel, vous payez tout en fait. Et en fait, par ce biais-là, ils arrivent à vous sucer tous les bénéfices, à délocaliser les bénéfices pour ne pas payer les impôts et pas payer surtout les primes et tout ça pour tout le monde. Voilà, c'est un système qui est bien organisé, c'est un système qui est ficelé, et ça, il faut le dénoncer parce que c'est fait bien partout, et l'Europe permet ce système-là.
Tous les jeunes gens, de 18 à 60 ans, de 18 à 60 ans, ce n'est d'avoir un gros biroute. Sur l'air du train, danser, voltiger les biroutes. Ah, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Ah, qu'elle est heureuse d'avoir un tel biroute. Ah, qu'elle est heureuse de pouvoir s'en servir avec un bec, une poêle. Sous les roses.
Quelle société, elle sera prospère.
Quelle société, elle sera prospère. Elle sera prospère.
Un acadra, un vieux drapeau, avec un birotin haut.
Avec un birotin haut. Et un dirac, elle vient biroute.
Sur l'air du train, danser, veulent-tu jouer les biroutes.
Parce qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Parce qu'elle est heureuse d'avoir un tel biroute.
Sous les roses.
Quand le président il se mariera.
Quand le président il se mariera. Il se mariera.
On ira tous à son mariage. Avec une boîte de cirage.
Avec une boîte de cirage. Et un lien qui crasse biroute.
Sur l'air du train danser, voltiger les biroutes.
Ah, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Ah, qu'elle est heureuse.
Quel président il mourira.
Quel président il mourira. Il mourira.
Un ira tout à fin de la main. Avec le spirou de la main.
Avec le spirou de la main. Et la patronne de nos biroutes.
Sur l'air du train danser, voltiger les biroutes.
Ah, quel est heureux, quel est heureux, quel est heureux. Ah, quel est heureux.
Quand la guerre elle éclatera, et quand la guerre
elle éclatera,
on ira tous à la frontière avec eux spirote à l'air,
avec eux spirote à l'air, un bâtira tout biroute.
Sur l'air du train danser, voltigerait les biroutes.
Ah.
qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse, qu'elle est heureuse. Ah, qu'elle est heureuse.